Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
C'est l'heure des enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, le Nicaragua.
Oui, le Nicaragua avec cet accord annoncé mardi soir entre opposition et le gouvernement du président Daniel Ortega après presque 11 mois de crise politique, manifestations et répressions qui ont fait 325 tués jusqu'ici. Le Nicaragua peut-il éviter une crise à la vénézuélienne? On va s'expliquer et voir ça avec vous. Hélène Roux, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste de l'Amérique centrale. Alors, le Nicaragua, c'est un des trois États qui était cité par les États-Unis de John Bolton dans la troïka de la tyrannie l'année dernière. Les manifestants reprochent au président Ortega, ex-révolutionnaire, sa gestion économique et humaine et puis sa longévité, très grande. Sur la forme, il y a déjà eu une tentative de concertation en juin de l'année dernière, 2018. Cette fois, on parle de négociation. C'est déjà un progrès et en quoi ça l'est?
Alors, c'est un progrès, ça dépend. En fait, le dialogue qui avait été commencé en mai-juin a été interrompu parce que il n'y avait aucune volonté du gouvernement de mener à bien cette négociation. Et actuellement, les pourparlers qui se sont engagés n'en sont, comme disent les Nicaragouiens, qu'à la charpente, c'est-à-dire que on est en train de négocier les points et les virgules et les termes d'un possible commencement à discuter les thèmes que la société nicaraguayenne souhaite voir abordés, en fait.
Et alors qu'on parle des planches ou des artisans de cette charpente, c'est des négociations qui se déroulent à 6 plus 6 dans l'opposition, 6 du côté du gouvernement. Cette opposition, c'est l'Alliance civique pour la justice et la démocratie. Et ce qu'on sait, qui est-ce qui négocie? J'ai vu un seul nom, José Palais, c'est ça, un ancien diplomate pour l'instant, côté opposition pour l'instant.
Non, alors en fait, les négociations, d'abord l'Alliance civile est une partie de l'opposition qui est beaucoup plus large en fait que cette seule composante. L'Alliance civile a été formée par la conférence épiscopale du Nicaragua au moment du premier dialogue, donc en mai-juin dernier. C'est une création un petit peu artificielle, dans laquelle ont été désignés ceux qui devaient participer. Voilà. Et en ce qui concerne donc la composition de l'actuelle délégation de l'Alliance civile, elle est le résultat d'une discussion préliminaire convoquée par le gouvernement avec un certain nombre de chefs d'entreprise, donc de représentants du secteur privé, des grands entrepreneurs qui et d'ailleurs on le voit dans la composition de la négociation, puisque sur 5 négociateurs, il y en a 3 qui viennent de l'entreprise privée, et puis plus si on considère les suppléants.
Et quid alors, par exemple, du Movimiento Estudiantil du 19 avril, ou le mouvement paysan? Est-ce qu'ils sont représentés dans ces négociations?
Alors, le mouvement étudiant est représenté par une personne, mais il faut savoir que au moment donc des événements d'avril sont nés un certain nombre de coordinations étudiantes qui ont plus à voir avec les lieux où elles se sont organisées dans les différentes villes, avec aussi des sensibilités différentes, il faut le dire.
Et notamment à l'université autonome du Nicaragua.
Exactement. Celle de Managua, celle de León, etc. Donc il y a différentes expressions. Donc là, il y a un représentant étudiant et sa suppléante. Il faut aussi signaler quand même que dans cette table de négociation, en ce qui concerne les titulaires, il n'y a pas une femme. Il n'y a que des hommes. Pas une seule femme, déjà ça...
Alors qu'il y a un certain nombre de figures de l'opposition qui sont des femmes, justement.
Bien sûr, bien sûr. Et en ce qui concerne donc le mouvement paysan, il n'était pas représenté au sein de la première configuration de cette délégation, ni du côté gouvernemental, ni du côté évidemment de l'opposition. Alors en catastrophe, ils ont rajouté une personne qui en fait est peu représentative du mouvement paysan. Sur deux personnes, une qui a été reconnue, disons. Mais il faut savoir que le négociateur qui avait été désigné pour le premier dialogue en mai-juin a été arrêté et est actuellement en prison. Il s'agit de Monsieur Medardo Mairena. Et non seulement il est en prison, il a été arrêté, mais il a été condamné à 216, je précise. Je répète, 216 années de prison par la justice nicaraguayenne.
Et c'est pas la seule figure de l'opposition d'ailleurs arrêtée. Il y a eu 600 arrestations au sein des manifestations. Des
777.
Ah, voilà, vos chiffres sont plus à jour que ceux qu'on a via l'AFP, dont des journalistes aussi, hein, Miguel Mora et Lucia Pineda de la chaîne 100% Noticias. Alors, quelle raison il y a de croire que, puisque il semble qu'un accord soit possible, en tout cas voulu par le communiqué avant le 28 mars, sur quoi peuvent s'entendre ces négociateurs, disons, pour une sortie de crise et un arrêt des manifestations?
Alors, je pense que l'agenda du gouvernement n'est pas la même que celui des négociateurs de l'opposition. Il est assez évident que pour le gouvernement, il s'agit de désamorcer les possibles sanctions internationales, mais surtout, il s'agit, et là, il y a des points d'accord avec une partie des négociateurs de l'opposition, il s'agit de mettre au premier plan le thème économique, de récupération économique du pays.
Qui est en récession.
Qui est en récession, évidemment, en raison de la crise, et que pour l'opposition, en tout cas celle qui ne participe pas forcément à l'alliance civile, c'est-à-dire qui est restée en marge, le thème le plus important, ce sont la tenue d'élections libres. D'abord, la libération de tous les prisonniers politiques. Et ça aurait été d'ailleurs une précondition. Les gens de l'opposition avaient demandé que ça soit une précondition au dialogue.
Alors qu'une centaine de personnes ont été libérées en début de semaine.
Alors elles n'ont pas été libérées.
Assignées à résidence.
Elles ont été assignées à résidence, ce qui est très différent. Et d'ailleurs, en fait, il n'y a aucun critère clair sur le choix qui a été arrêté de libérer ces personnes, puisque en réalité, ces libérations, en tout cas, ces changements de statut juridique auraient dû être notifiés et en fait soumis à une décision de justice, qui n'a pas du tout été le cas. Donc déjà, même dans ce cas-là, la procédure n'a pas été respectée. Donc c'est complètement arbitraire, en fait.
Bon, et du coup, alors on voit cette pression économique. Vous avez parlé de la présence des milieux entrepreneuriaux au sein des négociateurs. Il y a aussi le souci de la part du gouvernement d'éviter ce qu'on pourrait appeler une bataille des droits de l'homme, hein, puisque c'est la session du comité des droits de l'homme à l'ONU en ce moment. Quelles raisons y aurait et quels moyens y aurait de penser que ces négociations et cette feuille de route le 28 mars pourraient effectivement conduire à un consensus, disons, sachant que l'Église catholique aussi doit donner sa réponse pour participer ou non en tant qu'observateur aux négociations?
Alors, le problème actuellement, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui seront les garants de la négociation. Et on est en train de s'accorder, enfin il y a une bataille de termes sur le fait qu'on parle de négociateur ou de médiateur ou de garant et témoin, ce qui est très différent. Donc la conférence épiscopale a été sollicitée, mais en gros ils ne veulent que certaines personnes et pas d'autres. Actuellement ce qui se dessine, c'est que la conférence épiscopale et un certain nombre nombre de d'évêques qui ont un poids politique important au Nicaragua depuis longtemps, disent que eux, dans ces conditions, ne participeront pas à la négociation. Et c'est ça le grand problème, sachant aussi que le gouvernement, pour l'instant, n'a pas souhaité qu'il y ait des médiateurs internationaux.
Bon, bah écoutez, à suivre, à voir si jusqu'au 28 mars, effectivement, un accord est possible avec des vrais garants. Ce sera à suivre. On aura l'occasion d'en reparler avec vous. Merci beaucoup, en tout cas, ce matin, Hélène Roux, journaliste indépendante, spécialiste de l'Amérique centrale. Merci.